Aujourd'hui, nous recevons Amine Hajina. Son premier long métrage intitulé La petite cuisine de Mehdi est une ode délicate et savoureuse aux secrets de famille, aux mensonges qui protègent, mais aussi aux vérités qui libèrent. Et il faut le dire, Amine Hajina s'impose comme une voix très singulière du cinéma français contemporain, capable de mêler humour, émotion et puis aussi une fine observation des tensions culturelles et familiales. Amine, bonjour.
Bonjour.
Ton long métrage, où la nourriture devient métaphore un peu des relations humaines, comment est née cette idée de lier gastronomie et drame familial?
Alors en fait, moi déjà je suis un passionné de cuisine et notamment, voilà, la cuisine a toujours été un élément important à la fois familial chez moi et puis la découverte en tant que jeune adulte des bistrots. Parce que le père d'un ami tenait des bistrots, donc on a découvert cette culture-là de l'assiette, etc. Et ce qui m'importait, c'est que je trouvais que la cuisine, pour moi, c'est vraiment un lieu de la mémoire, de l'histoire, de l'héritage. On se souvient tous des plats qu'on a mangés enfant. Enfin, il y a vraiment cette idée que ça développe une mémoire qui nous constitue. Et entre autres, à l'endroit de la famille. Et donc, ce qui me semblait être une ligne comme ça, narrative, importante. Et puis, moi, j'ai des amis qui sont chefs cuisiniers. Mon frère est aussi chef cuisinier. Donc, ça me semblait être un bon terrain pour écrire cette histoire.
Alors justement, ce personnage, ton personnage principal, Mehdi, il est tiraillé entre deux cultures, deux amours, deux identités. Est-ce que c'est un reflet de ton expérience? Est-ce que peut-être plus largement, c'est une vision aussi de la société française contemporaine? Quelle a été ta perspective?
C'est un peu les deux. Effectivement, moi, je suis franco-algérien, donc j'avais envie d'interroger ce rapport-là, c'est-à-dire à la fois avec une culture d'origine, on va dire, et puis qui est mêlée à la société française, mais qui est le parcours de pas mal de jeunes enfants ou descendants d'immigrés. Enfin, d'ailleurs, là, c'est la question algérienne, mais évidemment, elle est transposable à pas mal d'histoires. Et je trouvais que ce qui m'intéressait, c'est comment il y avait parfois des situations qui, à la fois, qui nous interrogeaient, qui interrogeaient des choix de vie, de parcours, des choses qui arrivent dans le temps, le rapport à l'amour, le rapport à la trahison, à la loyauté. Enfin, on voit bien que c'est le personnage de Mehdi, c'est un personnage qui cherche à être loyal avec sa mère par rapport à son histoire et qui pose donc la question de l'exil. Qu'est-ce que c'est aussi, parce qu'il y a le personnage principal et puis il y a le personnage de la mère, qu'est-ce que c'est que d'avoir des enfants dans un pays qui n'est pas le sien, et comment on voit que des enfants nous échappent, etc. Donc c'est le film, il traite un peu de tout ça et comment on arrive à se déplacer chacun pour continuer le dialogue.
C'est quoi le problème avec ta mère?
Soit je présente ma copine et je la tue, soit je la présente pas et ma copine me quitte.
Tu veux que je fasse ta mère?
Quoi?
La comédie et le drame, je l'ai dit, coexistent, effectivement, et le film aborde aussi le mensonge par omission. Alors, est-ce que c'est pour toi une forme de protection? Est-ce que c'est une bombe à retardement dans les relations familiales?
C'est-à-dire, oui, c'est un peu ça, c'est un peu tout ça en même temps, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est quelqu'un qui, le personnage principal, il s'est habitué à compartimenter un petit peu.
C'est vrai qu'il cloisonne,
Il
hein.
cloisonne énormément. Il y a vraiment la cuisine, son histoire amoureuse, sa vie familiale de l'autre et tout. Et c'est ce qu'il dit dans le film, c'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a trouvé un certain confort. Mais au bout d'un moment, c'est une position qui est plus tenable. Et après, on sait bien que le mensonge est aussi un ressort de la comédie. Donc pour moi ça me permettait aussi, à certains endroits de pousser les curseurs, en tout cas sur ce mensonge qui va devenir plus gros que lui et qui va le dépasser et qui fait que qui sera c'est un mensonge qui va devenir intenable. Donc ça, c'est tout l'endroit de la fiction. Et en même temps, ce qui était hyper important, et c'est pour ça que c'est assez juste ce que tu nommes du fait que le rapport entre la comédie et l'émotion, c'est qu'il y a toujours une sincérité des personnages. C'est que moi, je travaille toujours à ce que les personnages, ils soient pas caricaturaux, mais au contraire, qu'ils aient une vérité, qu'ils aient toujours un rapport au monde qui soit singulier et qui s'exprime et qui fait qu'on est ballotté dans le film entre des moments où on rit franchement, parce que c'est l'idée de cette comédie, c'est aussi de rire franchement, et en même temps, la séquence d'après, on est rattrapé par une émotion, par quelque chose qui vient résonner intimement pour nous, etc.
C'est vrai que ton film est sur un fil, hein, entre ces deux registres-là, un peu comme dans l'âge d'or de la comédie italienne, où on pouvait à la fois rire, mais on basculait tout de suite dans le registre de l'émotion, parfois au bord du drame. Ces comédies douces amères très réussies, et à aucun moment tu ne sombres dans la caricature.
Bah, je suis, enfin, très heureux que tu nommes ça, parce que c'est vraiment aussi une référence pour moi. C'est en ça où, même si la reine, elle est lyonnaise, parce qu'on a vraiment tourné le film entièrement à Lyon, mais par contre, il a vraiment le film a une nature méditerranéenne. Et en ce sens, il y a un vrai héritage de la comédie italienne, parce que ce qui m'importe dans la comédie italienne, c'est qu'elle oublie jamais la question sociale. Et dans le film, ça traite également complètement de la question sociale et ce rapport de bascule. Et voilà, et c'est des histoires qui, enfin, moi, en tout cas, dans les comédies italiennes, c'est des histoires qui me parlaient vachement, parce que il y a les histoires de famille inextricables, etc., qui étaient en jeu dedans. Enfin, le rapport à la mer aussi très fort. Après, il y a aussi dans le rapport méditerranéen, je dirais qu'il y a aussi il y a aussi Almodovar, en fait, avec ses personnages féminins, haut en couleur, etc.
Truculent.
Ouais, truculent, et qui prennent la place, qui sont pas du tout des personnages effacés. Ça, c'était hyper important, et dans l'écriture, et dans le choix des actrices, et dans ce qu'il y avait à jouer pour elles.
Oui, parce que les partitions sont équilibrées. Hein, voilà, il y a pas de, c'est pas des personnages ultra secondaires. Voilà, ils ont chaque personnage a vraiment un beau rôle à incarner. Tu parles de Lyon, alors voilà, capitale un petit peu de la gastronomie, voilà, et puis la dimension de bistrot, puisque c'est un acteur à part entière, le bistrot. Vous avez tourné dans un vrai bistrot. Comment, raconte-nous un petit peu ce décor que tu as planté.
Bah, c'est oui, pour moi, ce qui est très important, par exemple, c'est que les décors sont des personnages. Donc ça veut dire que j'y ai apporté un soin extrêmement important aux détails. Et que pour moi, ce qui fait la nature, ce qui rend le lieu non pas uniquement comme un décor, un simple décor, et comme un personnage, c'est le fourmillement des détails, c'est-à-dire le choix de l'assiette, le choix de ce qui est mis dans les assiettes, le dressage, le rapport au produit, enfin qui est toute cette culture bistrot des gens passionnés qui travaillent qui passent leur temps à travailler ce rapport-là entre l'assiette et les personnes qui viennent manger. Que Lyon, effectivement, ce qui m'était important, j'ai choisi Lyon parce que c'est une ville de gastronomie, mais par contre, parce qu'on connaît aussi Lyon dans la tradition sur le bouchon, mais c'est pas un film sur le bouchon, c'est vraiment le bistrot, c'est encore autre chose. Et puis aussi, Lyon, ce qui m'intéressait aussi, c'est que c'est une ville où l'immigration algérienne a été importante et que j'avais aussi envie de raconter. Enfin, j'ai choisi cette ville comme ça à dessein. Et puis, je trouvais que c'était une ville cinématographique qui appelle le cinéma à filmer entre, enfin voilà, ces deux fleuves qui la traversent, ce grand parc, le parc de la Tête d'Or, etc. Donc voilà. Mais en tout cas, ce bistrot qu'on a beaucoup cherché, qu'on a eu du mal à trouver, et au final, quand on l'a trouvé, après on a retravaillé à l'intérieur la décoration, etc., pour que ça corresponde encore plus à des références que j'avais, parce que faut savoir que, par exemple, le bistrot s'appelle le baratin, et le baratin, bah, c'est un double sens, parce que à la fois, bah, il y a le sens du mot baratin, mais c'est aussi un lieu où moi j'ai appris à manger différemment, qui est un lieu à Paris, dans le quartier de Belleville, et qui est un bistrot tenu par des gens incroyables qui s'appellent Pinuche et Raquel, et qui tiennent ce lieu depuis 35 ans, 40 ans. Et donc ça, c'était aussi une sorte d'hommage à leur cuisine, etc. Donc il y a plein de comme ça de choses qui sont des hommages à des gens que je connais intimement, etc. Donc voilà.
Voilà, il y a tous ces ingrédients, ouais, hein, qui entrent en ligne de compte. On va parler des acteurs, ouais, et notamment ce jeune acteur qui incarne Mehdi, parce qu'il est vraiment formidable, donc Younes Boussif. Ouais. Voilà, comment est-ce que tu l'as trouvé? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu étais déjà en contact? Est-ce qu'il y a eu un casting? Raconte-nous un petit peu.
Bah, en fait, moi je l'avais vu il a été connu un peu dans la série Drôle, qui est passée sur Netflix, et puis surtout après je l'ai rencontré en casting. Et en casting, en fait, ce qui était hyper important pour le personnage de Mehdi, comme c'est un film sur le mensonge, il fallait que ce soit un acteur pour lequel on ait de l'empathie, pour pouvoir accepter de rentrer dans son mensonge et ensuite qu'on puisse, qu'on puisse s'inquiéter pour lui, qu'on puisse le suivre dans l'histoire. Et donc, et après, je trouve que c'est quelqu'un qui est à la fois qui est très concret, qui est très dans les situations, on y croit tout le temps, et puis qui a un rapport à la comédie. C'est-à-dire que, enfin, je sais pas, dans le film, il a un rapport au rythme, à la fois dans son accélération, mais aussi dans les temps qu'il prend par moment, et d'un coup, il a, de manière organique, il sent la comédie. Donc ça a été hyper important. Et là, on vient d'apprendre, d'ailleurs, qu'il est dans la liste pour les révélations des Molières 2026. Donc je suis très heureux pour lui, parce que vraiment, il est superbe dans le film. Il est superbe.
T'as craqué ou quoi ?
J'ai créé des suspenses dans ta vie.
Elle ressemble pas vraiment à ce que tu me disais, non ?
Avec moi, tout est possible.
T'es un grand malade.
Mais qui fait ça, sérieux ?
Je suis en train de résoudre le truc, là.
On va parler aussi des deux mamans. il y a la maman, voilà, il y a la maman biologique, la vraie maman, et puis il y a la maman actrice. J'ai envie de dire, c'est une maman de complaisance qu'incarne Yamabas. Alors voilà, dualité, complexité, voilà. Raconte-nous un peu comment tu as dirigé ces deux mamans.
Très différemment. Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que la vraie maman, c'est une actrice non professionnelle qui a un autre travail, qui a fait 2-3 apparitions dans des films, et moi je l'ai repéré parce qu'elle a fait un petit truc dans un film, un petit rôle, donc c'est comme ça que je l'ai repéré, mais elle est non professionnelle. Et à côté de ça, la fausse maman, c'est une actrice qui est au contraire une grande actrice internationale qui a joué énormément de rôles, donc je trouvais assez marrant d'avoir ces deux pôles. Et c'est vrai que Yamabas, c'est une actrice vraiment vraiment dingue, enfin que les gens connaissent, mais qu'on voit essentiellement dans des rôles plus tragiques. Donc c'est vraiment l'idée de lui offrir un rôle à contre-emploi, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a accepté, et elle a tout de suite plongé, accepté la proposition, parce que justement ça correspondait pas à ce qu'on lui proposait habituellement. Alors que la vraie mère, il y a eu un rapport d'immédiateté, c'est-à-dire quand elle est arrivée en casting, je sais pas comment dire, elle pigeait toutes les situations. La capacité de passer du rire aux larmes de manière aussi forte. Enfin, il y a eu vraiment toute une ambiance comme ça qui était très très puissante et du coup très précieuse pour moi.
Voilà. Et puis le résultat, il est aussi présent à l'écran. Et Yamabas, oui, effectivement, grande actrice, dimension internationale, ou dans la série Succession également, assez phénoménale. Alors, la cuisine joue un rôle important, bien évidemment, c'est le rôle principal. Il y a la cuisine française, celle de bistrot, puis il y a la cuisine aussi algérienne. J'ai presque envie de dire qu'il y a presque une dualité, un duel. Est-ce que c'était pourquoi justement cette envie de célébrer à la fois la diversité, raconte-nous un petit peu.
Justement, c'est-à-dire que ce qui était important pour moi, c'est que ce cuisinier, il y a une part manquante chez lui. C'est-à-dire que finalement, il a appris la cuisine, il l'a appris à l'école, dans les écoles d'hôtellerie. Donc il a appris la cuisine française, la cuisine plus traditionnelle, et que finalement, il a peu cuisiné chez lui. Enfin, il a même pas cuisiné du tout chez lui. Et d'un coup, son histoire, parce que souvent, la cuisine, en tout cas, et la grande cuisine notamment, c'est toujours une manière de faire rentrer son histoire dans l'assiette et de faire se rencontrer des histoires, des cultures différentes. Et ce qui fait que, et c'est là où le personnage de Souila, de la fausse maman, elle va venir le confronter à sa part manquante quand elle lui dit que c'est très bon ce qu'il fait, mais qu'elle lui dit, elle est où l'Algérie là-dedans ? Et ce qui fait qu'il va s'opérer une mue pendant le film où d'un coup, petit à petit, il va piger quelque chose, que quelque chose manque. Et donc, ça me permettait par le prisme de l'assiette, par le prisme de ce qu'il fait, de comment il y a quelque chose qui va se traduire dans sa cuisine et comment il va renouveler. En fait, c'est parce qu'on pense toujours que, des fois, sur la question culturelle, on met les choses en opposition. Or, en fait, justement, à l'endroit de la cuisine, c'est une manière de renouveler sa pratique et puis pour ceux qui viennent goûter, parce que aujourd'hui, on parle, par exemple, de la cuisine fusion, qui mêle une cuisine traditionnelle qui est renouvelée, remise au goût du jour, etc. Donc voilà, cette idée-là, en tout cas, et qui fait que, d'une certaine manière, ça va lui permettre, toute cette histoire va lui permettre de trouver son identité. Voilà.
Alors, tu parles de cuisine fusion. Tu nous as dit que tu aimais cuisiner. Quel est ton plat signature?
Alors, je dirais que c'est celui du film, c'est-à-dire ce plat qu'on a inventé pour le film, qui est la blanquette de veau à l'oranaise. Et ça, je dirais que si un jour des restaurants s'en emparent de cette recette, je serais ravi. Voilà.
Voilà, ça sera. Tu pourras vraiment parler d'une création qui, comme ton film d'ailleurs, a pris son envol à ce moment-là. Quels ont été, dis-nous, tes plus grands défis sur ce film, sur ce tournage, hein, pour un premier long métrage dont on sait qu'il y a énormément d'enjeux, hein, il y a beaucoup de choses qui se jouent.
Bah, je dirais que, en fait, un des gros enjeux, ça a été le rapport au temps, parce qu'un tournage, c'est toujours un rapport, c'est un temps qui est chronométré, donné, etc. Parce que moi, je viens plus du théâtre où le temps est plus dilué. C'est-à-dire qu'on a, finalement, on a un peu plus de temps, etc. Or, le cinéma, c'est très réglementé. Et donc, cette compréhension-là au moment du tournage, ça a été un des enjeux du film. Et puis après, ce qui a été hyper aussi important, bah, c'est toutes les scènes, je dirais les scènes aussi collectives. Parce que la gestion de tous ces figurants dans le restaurant, les scènes de danse, enfin dans le film, parce qu'il y en a deux, dont une qui est complètement, on gardera la surprise pour les gens, mais qui est un peu folle. Et ça a été des enjeux. Et en même temps, ces enjeux-là ont été les moments les plus forts du tournage, parce que d'un coup, il y a quelque chose qui nous a tous et toutes portés. Donc ça a été des grands moments de joie et d'une circulation d'énergie. Donc ça a été assez fort. Et puis après, il y a tout le rapport au montage aussi, parce que j'ai travaillé vraiment avec un monteur génial qui est vraiment quelqu'un de très sensible, et puis notamment sur la question du rythme, etc., qui est Guéric Catala, et qui avait une... Enfin, on était sur la même longueur d'onde sur ce qu'on voulait du film, etc. Donc, mais c'était ça pour le coup, c'était vraiment une nouveauté, parce que autant diriger des acteurs, c'est des choses que j'avais déjà pratiquées. Monter un film, ça je l'avais jamais fait. Donc là, il y avait vraiment un enjeu. Enfin voilà. Mais toutes les étapes ont été extrêmement joyeuses. Ouais.
Alors présenter ton film dans les festivals, l'accompagner à la rencontre du public, échanger, dialoguer avec les spectateurs. Comment tu vis ces moments ?
Hyper important, hyper précieux. J'ai eu des témoignages qui m'ont bouleversé, vraiment. Parce que, d'un coup, ce que le film faisait aux gens, de manière très intime, dans l'émotion, quelqu'un m'a dit, par exemple, c'est vrai que... Justement, sur le rapport à la comédie et l'émotion, le premier festival qu'on a fait, on avait fait deux projos sur deux jours. Et puis, une personne m'a dit, j'ai beaucoup ri pendant le film. Et puis, quand je suis arrivé chez moi, il y a quelque chose qui m'est remonté d'une forme de mélancolie, d'émotion qui m'est remonté, que j'ai pas vu venir. Et puis, des gens pendant la projection qui viennent, qui sont très émus. Et puis d'être dans la salle, parce que moi je regarde beaucoup le film avec les gens, parce que j'aime bien sentir la salle, et là de sentir les rires dans la salle, comme il y a un truc de groupe qui se noue, donc ça c'est très très précieux. Donc moi je prends beaucoup de plaisir, et j'en fais pas mal, et je prends beaucoup de plaisir après à échanger avec les gens.
Alors quels sont tes projets pour la suite? Est-ce que tu travailles déjà sur un nouveau film? Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot?
Bah, les projets, c'est que moi je continue le théâtre déjà. Donc j'ai
il faut dire aussi que tu écris. Ouais. C'est important, t'as cette part d'auteur.
Oui, c'est ça. J'écris des pièces qui sont éditées chez Actes Sud. Et puis j'ai une compagnie qui s'appelle la Compagnie du Double, que je dirige avec Émilie Prévotot. Donc on a des spectacles qui tournent. On prépare une nouvelle production pour 2027. Et puis effectivement, je commence à écrire mon prochain film. Donc je compte pas m'arrêter là.
Merci beaucoup Amine Adjina pour ta générosité, et puis aussi pour cette façon d'éclairer ton film, de plonger à tes côtés dans les méandres de l'âme humaine, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais sur le ton de la comédie, ouais. Des choses sincères, des choses qui nous font rire, mais aussi des choses extrêmement tendre et importante. Donc j'ai envie de laisser le mot de la fin à François Truffaut. Le cinéma, c'est d'abord une affaire d'amour. Donc voilà, partageons et aimons.
Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas pour tes questions. Merci beaucoup.